Bonjour à tous. Pendant que les enfants sortent, merci d'ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Pierre, à la page 803. Et on va regarder en fait le chapitre 1, les versets 12 à 21. Avant de lire, je vais prier pour ce temps. Seigneur, merci pour le privilège de pouvoir se rassembler, de pouvoir écouter ta parole puissante, transformatrice, qui nous motive à grandir en sainteté, et cela jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus, amen. Donc, alors nous sommes à la page 803, dans 2 Pierre chapitre 1, versets 12 à 21. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation ». Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout, aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci de garder ce passage ouvert, vos Bibles ouvertes, parce qu'on va faire référence à ce passage dans les prochaines minutes. Samedi dernier, un escaladeur a battu un record spectaculaire dans le parc national du Yosemite aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle. Cet escaladeur s'appelle Alex Honnold. Il a effectué une ascension de 900 mètres en solo, sans corde. Et son ascension a duré 3 heures et 56 minutes. Ça, c'est spectaculaire. Pour effectuer son ascension, cet escaladeur professionnel a évidemment fourni des efforts considérables. Mais tout au long de son ascension, il n'avait qu'une seule chose en tête, atteindre le sommet. Oui, en effet, parce qu'il n'y a pas de corde, donc mieux vaut atteindre le sommet. La vie chrétienne demande un effort conscient et continu, un effort aussi considérable pour arriver à notre but. Nous devons garder en vue notre espérance pour entrer dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a jamais promis que notre marche chrétienne serait facile. La semaine dernière, Trevor nous a dit que pour grandir dans une vie qui plaît à Dieu, c'est-à-dire en grandir en sainteté, nous avons besoin de mieux connaître notre Père. La connaissance de Dieu est clé pour arriver à notre but. La connaissance de Dieu nous donne en fait des promesses fiables. Elle nous présente une espérance, elle nous rappelle notre espérance. Une espérance qui est fondée sur Christ et sur la grâce. Mais même si notre croissance et notre salut est fondée sur l'œuvre de Christ et sur la grâce, la croissance chrétienne requiert aussi nos efforts. Elle exige donc notre vigilance et toute notre énergie. La croissance chrétienne exige un effort délibéré. Et ça, on l'a vu la semaine dernière, deux fois, au verset 5 et au verset 10 du chapitre 1. Pierre nous appelle à faire tous nos efforts, à nous appliquer dans nos efforts. Et il conclut sa lettre au chapitre 3, versets 16 à 17, en nous disant que pour progresser, nous devons mieux connaître notre Seigneur. Notre croissance requiert donc nos efforts et toute notre énergie. Mais en même temps, elle requiert aussi notre vigilance, car la progression chrétienne est loin d'être évidente. La vie chrétienne est une marche périlleuse où on peut vite faire face à de gros défis et à des dangers variés. Et c'est pour cette raison que Pierre nous a écrit cette lettre afin d'éviter les dangers que nous pouvons rencontrer dans la vie chrétienne. Il veut nous aider à cheminer, à nous orienter dans un terrain qui est truffé d'embûches. Cela justement pour que nous évitions de trébucher dans la vie chrétienne. Son but dans cette lettre, c'est de nous affermir pour que nous atteignions notre but final. Peut-être que la semaine dernière, en écoutant le message de Trevor, vous êtes peut-être demandé comment continuer à progresser dans la sainteté jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes une maman ou un papa qui doit prendre soin d'enfants en bas âge et vous avez peu d'énergie, peu de perspective à cause de nombreuses nuits blanches. Et là, je parle de moi et mon épouse, évidemment. Vous êtes peut-être une personne âgée qui n'a plus beaucoup de ressources, qui ne voit plus vraiment l'intérêt de progresser. Peut-être que vous êtes une personne qui est découragée après plusieurs années de vie chrétienne. Vous avez peut-être des soucis familiaux, des soucis au travail, des problèmes de santé. Et toutes ces choses prennent toute votre énergie, à tel point que vous n'en avez plus pour avancer dans la vie chrétienne. Mais peut-être que pour d'autres, la vie chrétienne avance, elle progresse, tout va bien. Et tant mieux, continuez dans votre progrès. Mais à ce moment-là, pour vous, vous avez besoin d'être préparé à des défis potentiels qui peuvent venir tôt ou tard. Le but, ce matin, dans les versets 12 à 21, c'est de nous dire que Dieu nous a fourni tout ce dont nous avons besoin pour progresser. Nous avons tout le nécessaire pour progresser. Il y a la puissance de Dieu qui nous soutient. Il y a sa parole qui nous équipe jour après jour. Et il y a ses promesses d'espérance qui nous motivent chaque jour pour continuer dans la sainteté. En quelques mots, ou pour résumer, Pierre nous dit cette phrase suivante. Souviens-toi que Christ reviendra et que c'est Dieu qui soutient ta foi. Souviens-toi que Christ reviendra et que c'est Dieu qui soutient ta foi. On va examiner un peu les défis des chrétiens à qui Pierre parle maintenant. Il y a en fait des faux enseignants dans cette église, des enseignants qui proclament des hérésies sur la fin du monde. Ces enseignants sont malicieux et ils mènent les gens en bateau. Ils leur promettent le monde, mais en fin de compte, leur enseignement ne fait que produire la ruine et la destruction. Et bizarrement, tous ces hérésies, ces hérétiques, ces moqueurs, sournois, attirent des foules. Au chapitre 3, versets 3 et 4, on découvre l'hérésie qui est enseignée. Elle dit que Jésus ne va jamais revenir. Les moqueurs se demandent où est la promesse du retour de Jésus ? Et ils se moquent de ceux qui croient que Jésus va revenir glorieusement. Et moi, j'aimerais faire une pause pour vous montrer à quel point cette hérésie est effrayante de par sa simplicité. Le jugement n'aura pas lieu. Jésus ne va pas revenir en gloire. Ça, ce sont des croyances banalisées de nos jours. C'est une hérésie qui est encore à la mode aujourd'hui, toujours au box-office depuis 21 siècles. Et malheureusement, elle fait toujours autant de ravages aujourd'hui. Donc qui est-ce que nous allons choisir d'écouter ce matin ? Les moqueurs ou la Bible ? Qui a raison dans l'histoire, Pierre ou les moqueurs. Pierre, dans son livre, nous présente deux destinations qui dépendent de notre connaissance, soit la destruction et la ruine, soit l'entrée dans le royaume céleste. Et donc les enjeux sont énormes, les enjeux sont graves. Le choix, en fait, semble plutôt évident. Pourtant, tout le monde va choisir l'entrée dans le royaume, évidemment. Pourtant, aujourd'hui, il continue d'exister des insensés qui pensent que Jésus ne va jamais revenir pour juger le monde. Le but de ces hérétiques moqueurs, c'est perturber l'ascension des chrétiens. Et Pierre en est conscient. Et il nous propose une solution à portée de main pour garder le cap. C'est la parole de Dieu. C'est le remède à portée de main pour ne pas trébucher. Donc pour garder le cap, pour ne pas trébucher, Pierre nous dit « Souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi de la parole de Dieu. » Et ça, c'est les versets 12 à 15 que nous allons maintenant examiner. Il semble que Pierre soit sur le point de mourir. Il s'attend à quitter son corps au verset 13. Pierre n'a qu'une seule ambition avant sa mort, aider les chrétiens à se souvenir continuellement de l'évangile. On voit ça au verset 12. Il souhaite nous rappeler l'évangile déjà connu. Au verset 13, il veut tenir en éveil par des rappels tous les chrétiens. Au verset 15, il va tout faire pour que nous puissions nous souvenir de ces enseignements continuellement. Donc qu'est-ce que nous avons reçu aujourd'hui pour progresser dans notre appel chrétien ? La parole de Dieu qui nous rappelle l'évangile. Et le rappel de l'évangile, j'insiste sur le mot « rappel », fait partie du régime quotidien du chrétien. Est-ce que vous aimez lorsqu'on vous rappelle des choses ? Moi, j'aime pas trop qu'on me rappelle des choses, parce que j'ai l'impression d'être un imbécile. Mais la Bible dit que nous avons besoin de rappels. Nous avons besoin de rappels constants parce que nous sommes un peuple oublieux. Plusieurs récits de la Bible nous montrent avec quelle facilité nous oublions la puissance de Dieu et ses promesses. Et l'oubli est un danger réel et effrayant. C'est un danger qui ne concerne pas simplement les personnes plus âgées, mais un danger qui nous menace tous, même nous, même les plus jeunes qui ont une mémoire plus faible. Notre mémoire est loin d'être fiable. Notre mémoire ressemble un peu à un vieux disque dur usé qui ne sauvegarde plus les données sur Dieu. Notre disque est corrompu, même si nous sommes des chrétiens, et même si nous venons toutes les semaines à l'église pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes tous très faibles, et Dieu en a bien conscience, et c'est pour cette raison qu'il a fait tout le nécessaire. Il aide son peuple oublieux à se rappeler de sa puissance et sa grâce par sa parole. Donc sa parole, que nous avons devant les yeux, c'est notre aide-mémoire. C'est aussi notre guide pour éviter de se perdre. C'est notre pense-bête parce que nous sommes tous franchement très bêtes. Proverbe 2, verset 17, nous présente concrètement le danger de l'oubli. Celui qui oublie l'alliance de Dieu est comme un fou qui ne craint pas Dieu. Sa maison est installée au bord d'un précipice et menace d'être détruite. Pour ne pas trébucher, Dieu nous a donné sa parole pour qu'on se souvienne. Mais il a fait d'autres choses supplémentaires. Il a fait plus que ça encore. Peut-être pour souligner que notre oubli est plus grave qu'on le pense. Regardez dans l'Exode, il a donné des fêtes à célébrer dans le calendrier pour son peuple oublieux. Il a institué des événements symboliques comme le repas de la Pâque pour se souvenir du sacrifice de délivrance qui a eu lieu. Il nous a donné la manne pour signifier que nous sommes un peuple en exil, en transit vers la terre promise, vers le royaume du Christ. Et il dit aux parents très explicitement qu'ils ont la lourde responsabilité de transmettre à leurs enfants ce que Dieu a fait lors de l'Exode en Égypte. Et en ce qui nous concerne, pour nous chrétiens de la Nouvelle Alliance aujourd'hui, Jésus-Christ a continué de montrer sa grâce dans le même sens, parce que nous sommes toujours un peuple oublieux. Il nous a laissé par exemple deux moments clés qui sont simples, mais qui sont des moments d'une grande profondeur. Le baptême, qui nous parle de l'œuvre du Christ, de sa mort et sa résurrection. La Sainte Cène, que nous venons de célébrer ce matin, qui nous donne un avant-goût du banquet céleste que nous prendrons avec le Père. Tout cela pour nous aider à nous souvenir de l'œuvre de Dieu. Et Dieu utilise Pierre pour nous transmettre sa parole, pour que nous n'oublions pas tous ses enseignements. Pierre tente de limiter nos chances d'oublier, de limiter nos chances de trébucher, et il nous rend un sacré service au verset 15. Par cette parole transmise, nous pouvons connaître Dieu et par conséquent grandir. Dieu a fait tout le nécessaire pour nous éviter de trébucher en nous donnant sa parole. Mais si Dieu fait ce constat que notre mémoire n'est pas fiable, que nous sommes tous oublieux, qu'il nous a donné cette parole pour que nous puissions nous souvenir, moi j'aimerais vous demander ce matin, comment est-ce que va votre mémoire ce matin? Comment est-ce que votre lecture, comment va votre lecture de sa parole? Qu'est-ce qui guide vos pas? Qui est-ce qui guide vos pas ce matin? Est-ce que c'est Dieu et sa parole? Ou est-ce que ce sont plutôt les hérésies de ce monde? Dans les versets qui vont suivre, à partir du verset 16, Pierre nous rappelle que nous pouvons faire confiance à sa parole. Car derrière cette parole, il y a l'auteur de notre espérance, il y a l'auteur de promesses précieuses. Il s'agit de Dieu le Père qui, par son Fils Jésus-Christ, nous assure un futur dans son royaume. Jésus-Christ est présenté dans ces versets comme le roi puissant, glorieux, qui va établir son royaume futur. Dans un second temps, dans les versets 16 à 18, Pierre va nous assurer que Christ reviendra. Donc il nous dit, souviens-toi, parce que Christ reviendra. Regardons maintenant les versets 16 à 18. Souviens-toi, Christ reviendra. Au verset 16, Pierre distingue la parole de Dieu des fables qui sont habilement conçues. Dans cette église, on ne croit pas que la Bible est un récit symbolique où on puise dans notre imagination pour trouver le sens de la Bible. On ne croit pas qu'on peut imaginer, rêver à partir de cette parole. En fait, ce n'est pas une série de récits allégoriques qui ne sont pas réels et qui n'ont pas eu lieu dans l'histoire. En fait, la parole de Dieu est un récit historique. C'est un récit qui est fondé sur des faits qui ont vraiment eu lieu et qui ont eu lieu dans notre histoire. Des faits qui ont eu lieu dans des zones géographiques que nous connaissons, au Moyen-Orient, en Égypte, en Grèce, à Rome, avec des empereurs que nous connaissons aussi, des rois comme Hérode, Agrippa, des personnes que nous pouvons facilement retrouver dans des livres d'histoire. Il suffit en fait, si vous voulez, de se rendre au musée du Louvre ou au musée britannique de Londres pour trouver des preuves sur la Bible. En fin de compte, des auteurs de fables n'auraient jamais fait autant de références historiques par rapport à ce que la Bible fait. Et moi, ce matin, j'aimerais vous encourager à aller visiter des musées en famille ou entre amis pour vérifier que la Bible n'est pas une fable. En fait, c'est bien un récit historique. La Bible n'est pas un livre obscurantiste sans preuves tangibles. Il y a des preuves qui sont disponibles et qui sont à votre portée. Et dans les versets 16 à 17, nous voyons que la Bible est un récit historique à cause des témoignages oculaires qui sont présents. Pierre, par exemple, nous parle d'une expérience réelle. Il a constaté les faits au verset 16 et 17. Pierre parle d'un témoignage vécu Il parle de la venue puissante du Seigneur Jésus et il dit qu'il l'a vu de ses propres yeux. Il l'a entendu de ses propres oreilles au verset 17. Mais peut-être que ça ne suffit pas de voir et d'entendre pour vous. Ben, laissez-moi vous parler de cette expérience que j'ai eue il y a quelques semaines à Colombes. J'ai vu de mes propres yeux une agression au milieu de la journée. J'étais le témoin oculaire. Je me suis immédiatement rendu au commissariat qui était très proche de l'agression. J'ai encouragé la personne qui était agressée à se rendre à la police. Elle a donné son témoignage. Mon témoignage a confirmé son expérience, son agression. Et pour la police, le simple fait que j'avais vu de mes yeux les faits était en soi une preuve solide et suffisante pour me faire confiance. Et ils ont heureusement pu arrêter l'individu par la suite. De la même façon, lorsque Pierre nous dit qu'il a vu Jésus-Christ, qu'il a entendu la parole de Dieu parler, son témoignage pèse lourd dans la balance et devrait nous donner confiance. On va regarder la citation du verset 17 pour voir exactement ce que Pierre a vu et entendu. Au verset 17, on lit que « Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Cette citation est tirée du Nouveau Testament, on la retrouve dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Elle fait référence à la transfiguration. La transfiguration nous renvoie à l'avènement du Christ, au jour de son retour, au jour de notre espérance, c'est-à-dire un jour de salut et un jour de jugement. La transfiguration, c'est un peu la bande-annonce qui annonce le retour en gloire de Jésus. Et Marc 9, donc, nous assure que Christ reviendra. Mais cette citation se trouve aussi dans l'Ancien Testament, dans le psaume 2, dans Ésaïe 42 et dans Daniel 7. Ces trois passages dans l'Ancien Testament ont un point en commun. Ils parlent tous de la gloire, de l'honneur et de la puissance de Jésus-Christ qui va instaurer un royaume puissant à l'avenir. Et voici comment Jésus y est décrit dans ces passages. Jésus possède toutes les nations, toute la terre. Il brisera tous les moqueurs avec un sceptre de fer. Il instaurera le droit et la justice sur la terre. Il est redoutable et extraordinairement puissant. Il est aussi le sauveur qui est rempli de douceur. On est bien loin de caricatures de Jésus qu'on peut entendre, qu'on peut parfois croire nous-mêmes. Il y a quelques années, j'ai écouté une série de prédications qui s'intitulait « Débarrasse-toi de ton Jésus en plastique ». Débarrasse-toi de ton Jésus en plastique. Ce titre interpelle et nous interroge de cette façon. Quelle est notre représentation de Jésus ? Quelle est notre représentation de Jésus ? Et qu'est-ce qui a façonné notre représentation de Jésus ? Est-ce que c'est la Bible ou est-ce que ce sont des hérésies ? À quoi ressemble, peut-être pour certains d'entre vous, votre Jésus en plastique ? À quoi ressemble le Jésus en qui vous croyez ? Sur quel fondement vous vous basez ? Est-ce que vous vous basez sur des rumeurs de rue, sur des idées reçues, sur votre héritage chrétien, sur des traditions ancestrales, peut-être sur votre culture chrétienne ? Est-ce que votre Jésus n'est qu'un simple porte-bonheur, un gris-gris pour conjurer les mauvais sorts ? Est-ce que Jésus n'est en fin de compte que votre esclave qui doit répondre à tous vos besoins ? Votre Jésus en plastique n'a pas les moyens de vous sauver de la mort. Peut-être que ça peu importe pour vous, parce que de toute façon, vous ne vous souciez pas de la vie après la mort. La vie après la mort n'a aucune importance. Mais pas pour la Bible, pas pour Jésus. Ce Jésus en plastique, c'est votre représentation basée sur votre connaissance faussée de Dieu. Et si vous ne progressez pas plus dans votre vie chrétienne, c'est peut-être parce que votre petit Jésus ne fait pas le poids. C'est votre béquille spirituelle pour les moments difficiles. Avec ce Jésus en plastique, vous et nous tous, si on croit dans ce Jésus en plastique, on court tous au désastre et tous vers la ruine. débarrassons-nous donc de ce Jésus en plastique. Supprimons toutes ces vidéos YouTube qui parfois caricaturent Jésus. Et lisons plutôt nos Bibles. Établissons nos vies sur cette révélation qui est certaine, solide, fiable. Cette parole nous fait connaître le véritable Jésus. Et Pierre présente au verset 17 toute la majesté, l'honneur et la gloire de Jésus. Fini les contrefaçons, fini les fausses promesses. La parole nous parle de Jésus comme sauveur, comme juge, comme Seigneur que nous devons servir. Et Jésus-Christ promet qu'il reviendra pour juger les hommes. La parole de Dieu que nous avons devant les yeux est un gage, c'est une garantie que Christ reviendra pour juger tous les hommes. Et donc cette parole que nous avons devant les yeux affermit notre confiance dans l'attente de son retour puissant. Et Pierre ne va pas s'arrêter là, parce qu'il va nous donner encore plus confiance. Il veut que notre confiance soit encore plus certaine. Et au témoignage de Pierre, il va ajouter un panel de témoins supplémentaires au verset 19 à 21. Il s'agit du témoignage de la parole prophétique. Et Pierre fait là référence à l'intégralité de l'Ancien Testament pour nous assurer à nouveau que Christ reviendra. Et donc on voit que toute la Bible nous aide à nous souvenir que Christ reviendra. Les témoins de l'Ancien Testament font écho aux paroles de Pierre. Nous allons voir donc dans ces versets, dans 19 à 21, que c'est Dieu en fin de compte qui, par sa parole, soutient notre foi. C'est Dieu qui, par sa parole, soutient notre foi. Pierre exprime une certitude encore plus forte sur la base du témoignage de l'Ancien Testament au verset 19. On peut imaginer que peut-être Pierre et les apôtres ont eux-mêmes relu l'Ancien Testament suite à la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et ils ont peut-être sûrement trouvé des témoignages robustes qui n'ont fait que confirmer que Jésus allait revenir glorieusement. À quoi font référence ces prophètes? Eh bien, eux aussi font référence au jour du Seigneur, un jour de jugement et de salut. Et pour Pierre, le fait d'avoir vu Jésus sur la montagne, d'avoir entendu la voix du Père, rend encore plus certaines les promesses de l'Ancien Testament et rend encore plus certaine notre confiance aujourd'hui. Pierre n'est pas le seul à dire que Jésus va revenir. Il y a une nuée de témoins qui disent en cœur « Christ reviendra ». Et leur confirmation renforce notre confiance. Toute la parole nous assure que Christ reviendra. Au verset 19, à la fin du verset 19 dans la deuxième partie, Pierre parle de l'éclairage de l'Ancien Testament et plus généralement de l'éclairage de la Bible. Elle est présentée comme une lampe dans un lieu obscur qui brille. La parole de Dieu brille depuis bien plus longtemps que la philosophie des Lumières. Beaucoup de personnes ont peut-être tenté dans l'histoire d'éteindre ce flambeau, mais à chaque fois en vain. La lumière de la parole brille encore aujourd'hui et elle va briller encore plus au retour de Jésus lorsque Christ reviendra. Et Pierre est en train de nous dire au verset 19 que le jour commence à poindre. Le jour commence à poindre. Moi, je ne connaissais pas le sens du verbe poindre. Qu'est-ce que ça veut dire, Michael? C'est le jour qui commence à se lever. Et l'étoile du matin, dans ce verset, fait référence au retour de Jésus dans l'Apocalypse. Le retour de Jésus n'est pas présenté comme quelque chose d'immédiat, au verset 19, mais il est présenté comme quelque chose d'imminent. Et peut-être que pour vous, aujourd'hui, vous avez du mal à gérer dans votre vie chrétienne l'attente de son retour. Vous aimeriez voir beaucoup plus de lumière, vous aimeriez voir toute la gloire de Jésus. Vous êtes impatient de voir son retour. En fait, c'est une excellente chose si c'est le cas. On doit tous languir pour le retour du Christ. Et dans un contexte où nous vivons dans l'insécurité, sous la menace constante du terrorisme, sous le poids du péché qui envahit nos vies, on a beaucoup de raisons de languir toujours plus pour son retour. Mais le verset 19 nous dit aussi qu'il faut encore patienter, car le jour commence à poindre. L'étoile du matin se lève. Mais Pierre nous dit que la fin n'a jamais été aussi proche et que la fin, en même temps, n'est pas encore tout à fait là. Et donc, le chrétien doit patienter, il doit s'efforcer de continuer en se basant sur la certitude de la parole de Dieu. Et ça nous permet en fait de gérer notre attente pendant notre marche vers le royaume céleste. Grâce au témoignage des Écritures, nous pouvons patienter, car la lumière de la parole de Dieu brille suffisamment pour nous aider à continuer jusqu'à son retour. Peut-être que vous avez suivi les aventures de Thomas Pesquet dans l'espace. J'ai beaucoup apprécié les superbes clichés qu'il a fait de la Terre, mais aussi les vidéos amusantes dans sa station spatiale. Dans une vidéo, il nous montre en fait l'obscurité de l'espace dans la nuit. Et c'est le noir total. Ça fait vraiment peur parce qu'on n'y voit absolument rien. Et après quelques minutes, on voit tout d'un coup à l'horizon une ligne de lumière qui apparaît. La lumière suit les contours de la Terre. On voit une lumière bleue, blanche qui brille. Et après quelques minutes, le soleil se lève. Et là, toute la lumière puissante du soleil vient éblouir l'objectif. De la même façon, lorsque Christ va revenir, sa puissante gloire va éblouir chacun de nous et toutes les nations. Même si nous avons le sentiment actuel d'être dans le noir, c'est seulement pour un temps, car Christ revient. Et qui est derrière cette promesse ? Eh bien, il y a Pierre, comme nous le voyons dans ce passage, il y a les apôtres, comme nous le voyons dans ce passage, il y a les prophètes de l'Ancien Testament, mais ce ne sont pas les seuls qui nous soutiennent dans notre marche chrétienne. Ce ne sont pas les seuls qui nous soutiennent dans notre marche chrétienne. Au verset 20 et 21, on voit que Dieu lui-même soutient notre foi, car c'est lui l'auteur de sa parole. C'est Dieu qui nous donne une confiance sûre que Christ reviendra. Notre assurance dans sa parole se fonde sur Dieu, pas sur l'intelligence des hommes. En fin de compte, aucun homme n'aurait pu imaginer une histoire pareille, un évangile pareil. Aucun homme n'aurait fait le constat que l'homme est pécheur, qu'il doit rendre des comptes à Dieu, qu'il va être jugé, que nous pouvons être sauvés par le sacrifice de Jésus sur la croix. Cet évangile-là peut simplement venir de la bouche de Dieu. Et on voit que la parole puissante de Dieu est le socle de notre espérance. Dieu est le soutien de notre foi par sa parole. Et donc, si nous nous sentons faibles pour avancer, sa parole est là pour nous motiver, pour nous encourager, pour nous soutenir comme des êtres faibles et fragiles. Dieu soutient notre foi par sa parole. Et donc, pour conclure ce matin, voici ce que Pierre nous dit. Souviens-toi que Christ reviendra et que Dieu soutient ta foi. Souviens-toi que Christ reviendra et que Dieu soutient ta foi. On va prier. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour ta parole qui nous permet de nous souvenir, qui nous nourrit, qui nous aide à progresser chaque jour. Merci pour le rappel de ta puissance, le rappel de ton retour et le rappel que ce monde va être transformé, que ton royaume sera un royaume de justice, de paix, d'amour. Seigneur, nous languissons dans l'attente de ton retour. Et dans l'attente, nous te prions que tu nous aides à avoir la suffisance de ta parole pour nous équiper et pour nous aider à avancer. Au nom de Jésus. Amen.